Nous sommes et une start-up et une solution de e-accompagnement. Nous accompagnons toute la vie professionnelle dans les entreprises et en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire pour les entrepreneurs, les gens porteurs de projets. Et à chaque fois, ce qui nous a intéressé, c'est de bien cibler certains sujets qui vous intéressent et sur lesquels on remarque depuis des années, pendant lesquelles nous avons travaillé, qu'il y a des vrais sujets et une vraie demande, et que ce format d'accompagnement tel que nous le proposons, en fait, vous permet et en même temps d'avoir des apports pédagogiques à travers des modules, des visios, des exercices en ligne et à tout un parcours qui vous est proposé et dans lequel nous mélangeons des formats d'accompagnement qui sont soit effectivement d'ordre collaboratif puisque vous avez des forums, des échanges entre vous, soit de l'ordre de la visioconférence, on a un très bel appareil de visioconférence, soit sous forme d'email, mais c'est toujours un professionnel qui va vous accompagner. Et notre but, c'est de faire le lien entre votre projet, votre objectif individuel et personnel, et le sujet que vous avez choisi. Et comme ça, on peut couvrir le mieux possible en rationalisant, répondre à votre besoin et venir vous rencontrer et vous accompagner. Et surtout, ce qui nous importe, c'est qu'il y ait un résultat, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous êtes venu nous trouver et la fin, vous ayez atteint votre objectif. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Vous pourrez nous retrouver sur le stand iWorkers, stand G3. Donc si vous voulez plus d'informations. Maintenant, je vais vous présenter. Bon ben là, la plateforme, elle est très sophistiquée. On a vraiment un environnement extrêmement riche, mais très simple et très intuitif. Et on a catégorisé, si vous voulez, nos accompagnements sous trois axes. La performance, avec un axe qui s'appelle Perform. La transition, avec un axe qui s'appelle Move. Et Value, c'est un axe qui est la création de valeur et tout ce que vous pouvez rajouter à votre, entre guillemets, ADN originel. Donc, c'est dans l'axe Value que Secret de réussite au féminin intervient. Alors, d'abord, je vais vous présenter, introduire, parce qu'elle va se présenter toute seule, Geneviève, l'auteur de ce training. Alors, je connais Geneviève depuis 12 ans, en dehors d'être une très grande professionnelle que j'apprécie beaucoup, qui accompagne les femmes depuis très longtemps, elle vous racontera elle-même comment. Ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est que c'est une femme qui a 6 enfants, elle est à la tête d'une tribu. C'est une entrepreneuse remarquable et je me suis toujours demandé comment elle faisait pour allier les deux. Elle va se présenter.
Merci beaucoup Florence. Pour répondre à ta question, c'est la passion. Voilà. Ce qui est au cœur de tout ce que j'ai fait, c'est vraiment les femmes en fait qui sont à l'origine de ma vocation, de ce que je fais. Et donc je les accompagne depuis 28 ans. J'ai commencé à les accompagner autour de la naissance, hein, de la grossesse, de l'accouchement et des années qui suivent, en même temps que j'avais mes propres enfants. Les femmes m'ont demandé de les accompagner sur d'autres sujets. Certaines qui changeaient de carrière, qui créaient une entreprise, qui divorçaient ou qui se mariaient ou qui partaient à l'étranger et qui me demandaient de les accompagner aussi sur ces transitions-là. En parallèle, à une activité salariée, donc j'étais dans des grands groupes, dans les RH et la formation. Également dans le secteur médico-social, où je faisais des formations. J'accompagnais les femmes. Et puis, à un moment donné, j'ai créé mon entreprise, il y a 15 ans, pour me consacrer que à cet accompagnement, en tant que coach, thérapeute, en proposant des séminaires, des ateliers, des consultations. Ça faisait un moment que je voulais vivre cette aventure des programmes en ligne, hein, des trainings, je vais pouvoir le faire avec Florence.
Voilà. Alors en fait, quand Geneviève est venue me trouver avec son sujet, je savais depuis longtemps qu'elle s'occupait de ça, Je dis, mais moi, tu sais, je suis pas trop féminin, masculin. Les réseaux féminins, j'ai un peu de mal parce que, voilà, est-ce qu'il y a vraiment un sujet derrière ça? Est-ce que c'est pas plutôt une façon d'exploiter un filon? Donc, je me suis posé la question. Et puis, du coup, on a commencé, elle m'a expliqué, elle m'a posé des questions d'abord, que je pense elle va vous poser aussi. Et je me suis dit, mais j'ai jamais pensé à ça, en fait. J'ai jamais réfléchi comme ça. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et ensuite, du coup, on a mené, et moi je suis un peu cartésienne, donc j'ai été mener ma petite enquête, et là j'ai été quand même assez sidérée par les chiffres que j'ai trouvés. Et effectivement, il y a un sujet quand même féminin, il y a pas à dire. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est les choses suivantes. C'est la vie professionnelle. Alors, les faits et chiffres, c'est quoi? C'est, premièrement, un exemple que vous connaissez peut-être déjà, quoique j'ai quand même été vérifiée, il ne fait pas vraiment l'objet d'une étude formelle, mais il est répété partout. Et d'un autre côté, je l'ai pris parce que je pense qu'il est quand même assez symbolique du sujet. Alors, si vous voulez postuler à une annonce, il y a une annonce de job qui est faite. Qu'est-ce qui va se passer? Ça décrit donc des compétences demandées. Eh bien, vous pouvez être sûr, à chaque fois, visiblement, les hommes se disent « Oh, j'ai à peu près, ouais, ça va, 45-50% des compétences, j'y vais. » La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais elle attend d'avoir 95% des compétences pour y aller, pour oser postuler. Donc, c'est une généralité. J'imagine que beaucoup, certainement, dans la salle ne sont pas forcément comme ça, mais c'est une statistique. Voilà, j'ai voulu prendre le sujet par des faits et des chiffres. Alors ensuite, ça va être la rémunération. Alors, la rémunération, bon, sans parler bien sûr du poncif, que donc on serait à 20% en dessous de la moyenne. Mais ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est que d'abord, à la sortie des études, d'études supérieures, sur des postes à peu près équivalents à 40 ou 50 000 euros, eh bien, on interroge les hommes, il va y avoir un différentiel de 15%. Les hommes penseront, par exemple, oui, facilement, sans problème, je peux gagner 50 000 euros. Les femmes, non, ne le penseront pas. Elles vont, hop, systématiquement être 15% en dessous au niveau des prétentions qu'elles vont avoir. Ensuite, si on prend, bien sûr, la rémunération, bah oui, 75% des femmes ne sont pas satisfaites de leur rémunération, bah oui, puisqu'elles sont moins payées que les hommes la plupart du temps. Mais qu'est-ce qui se passe? 60% des femmes n'oseront pas demander une augmentation. Bon. Donc, voilà. Si on prend les notions, oui, de leadership, alors là, on va développer ça, on est vraiment dans la notion de stéréotype. Et malheureusement, vous allez voir, c'est le problème, c'est que les stéréotypes sont partagés par les deux genres. Bon. Donc, les compétences professionnelles des hommes sont associées, oui, au manager, au patron, au décideur, à celui qui prend les décisions. Les compétences des femmes sont associées généralement à des compétences d'assistance et d'appui. Une fois de plus, je rappelle, ce sont des statistiques et des généralités. Peut-être vous ne vous reconnaîtrez pas dans ces faits-là. Ensuite, par rapport au pouvoir. Alors là, bon, ça je pense que vous le savez toutes, le pouvoir dans les entreprises, dans les comités de direction, les hommes détiennent 80 à 90%. Moi j'ai été affolée, hein, vraiment, du pouvoir dans les comités de direction. Et alors, pire, j'ai visionné différentes vidéos, études qui ont été faites sur le fait que quand une femme prend une attitude, ils ont filmé une femme, un homme, ils ont repassé cette vidéo à l'envi, une femme donc avec un ton très patron justement, très sûr d'elle, qui donne ses avis sur tout de façon tranchée, manifeste visiblement beaucoup d'assertivité, et le panel de toutes les personnes qui se sont succédées se sont dit, mais non, c'est pas normal, cette femme, elle surcompense, elle doit pas avoir les compétences nécessaires, si elle a pas les compétences nécessaires, nous on lui attribuerait tant de rémunération. Et avec l'homme, qui était dans la même posture, en disant les mêmes choses. Ah, mais là, ça c'est vraiment un chef, un décideur. Ça, c'est vraiment quelqu'un, il doit avoir un niveau de compétence extrêmement élevé, et ça, il faut que la rémunération soit en conséquence. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu triste quand même. Alors maintenant, voilà, par rapport à la vie professionnelle, en général, la conclusion, c'est quoi ? Eh bien, en fait, ce que j'ai vu, c'est que les stéréotypes, en plus, sont très clivants. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait mettre chacun dans un camp et les opposer. Et je pense que ça n'est pas juste, parce que je crois que beaucoup d'hommes, finalement, sont tout aussi, quelque part, sont aussi un peu perdus par rapport à ça, et peut-être qu'ils aimeraient aussi exprimer autre chose que ce qu'on leur demande d'exprimer. Donc ces stéréotypes sont sur les rôles, les organisations, et on va généralement lier la notion de savoir-faire à l'homme et la notion de savoir-être à la femme. Voilà. Donc derrière ça, bien sûr, vous pouvez mettre toute une panoplie de métiers, de tâches qui seront confiées, parce que les déclinaisons derrière ces deux termes sont quand même très importantes. Ensuite, vous allez trouver systématiquement aussi ce qui peut rejoindre aussi le fait de la femme qui a beaucoup d'assertivité, la femme qui va réussir, donc la femme carriériste, ambitieuse. Et alors très souvent, l'image qui est donnée, c'est vraiment une image un peu froide et qui fait un peu peur. C'est-à-dire, on se dit, mais oh là là, cette femme, elle ne doit pas avoir de cœur, et puis ou elle n'a pas d'enfant, ou alors mais comment elle s'occupe de ses enfants. Et donc, même chose, on opposerait à ce moment-là ce qu'est la notion d'être une bonne mère et ce qu'est la notion de réussite. Donc je rappelle, ce sont des faits et des statistiques. En tous les cas, tout ça, ça conduit à quoi, ce petit panégyrique ? C'est pour dire que les femmes et les hommes partagent ces stéréotypes. C'est-à-dire que parfois, peut-être même, certaines femmes seront encore peut-être plus dures que certains hommes par rapport à ces stéréotypes. Donc, ça amène les femmes à faire quoi ? Et ça, c'est un mécanisme qu'on a beaucoup mis. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu cette... C'était pas une publicité, mais c'était pas loin, qui avait fait une marque de protection féminine sur les femmes. Et on demandait aux petites filles, cours comme une fille. Et on voyait, voilà, vous l'avez vu, celle-là. Bon, la petite fille, elle court comme elle a envie de courir, en fait, voilà. Et à 15-16 ans, on leur demande, cours comme une fille, et elles se mettent à singer ce qu'est une fille ou une femme. Bon. Et donc, c'était absolument hallucinant, c'est-à-dire qu'elle jouait un rôle de ce qu'elle pensait être une fille. Et on remarque que c'est à partir de l'âge de l'adolescence que tous les processus de programmation et d'autocensure liés aux stéréotypes se sont mis en place. Alors, ça va être très intéressant parce qu'on va décortiquer ça, et vous allez voir que c'est quand même assez sophistiqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système de croyances qui s'est implémenté au fil du temps, très jeune, et sans que vous vous en rendiez compte, il va conditionner tout un tas de décisions ou de choses que vous allez vous dire. Donc, maintenant, si on prend les femmes entrepreneurs, bon, donc là aussi, hein, les chiffres sont assez étonnants. Je pensais d'ailleurs qu'il y en avait beaucoup plus, c'est une étude de ISCOC est une compagnie d'assurance anglophone, donc c'est une étude liée à l'échelle mondiale. 3% des femmes actives sont des entrepreneurs. Bon, j'ai été surprise. Alors, ça c'est plus intéressant parce que ça va nous relier au sujet de l'avenir de l'entrepreneuriat au féminin. 21% des femmes ont trouvé leur voie par rapport au numérique, dans des start-up numériques. Et donc, on va voir un peu pourquoi. Alors, les chiffres en France. Alors, là aussi, c'est tout secteur conventu. Alors, ils ont pris un barème sur un même type de business. Il y a eu des comparaisons entre les chiffres d'affaires moyens des hommes et les chiffres moyens d'affaires des femmes. Donc, vous les voyez, hein, 4,9 millions pour un homme et 1,6 millions pour une femme. Alors, pourquoi ? En fait, ça, on va le comprendre, ça dépend de la conception de l'entreprise. L'homme, il va avoir une conception de l'entreprise, l'entrepreneur, sur lequel très vite il veut atteindre une certaine taille. Et il ne va pas hésiter à faire des reprises d'entreprise, des acquisitions, il va étendre son territoire. Voilà. Et donc, ce qui va expliquer effectivement un chiffre d'affaires plus élevé aussi. La femme, elle va plus avoir envie de monter une entreprise pour répondre à un besoin. Elle a identifié un besoin quelque part, elle est assez pragmatique généralement, et elle se dit, tiens, ce serait bien de faire ça pour répondre à ce besoin. Et puis elle est bien sûr tournée, vous le verrez, vers les partenariats, les réseaux, et c'est une conception de développement en réseau, voilà, relationnel et en réseau. Mais qui de l'œuf ou de la poule, on ne sait pas si ça vient des stéréotypes ou c'est naturel. Alors, la direction. J'avais encore un petit truc, je crois, à dire, voilà. Alors, très très intéressant. L'homme, dans la façon de diriger, par rapport à son équipe ou à les gens avec qui il travaille, il ne va pas hésiter à les heurter. Bon, il va dire non, ça va pas. Hein. La femme, elle veut l'approbation de son équipe. Elle va chercher l'adhésion. Donc ça, j'avais trouvé ça intéressant aussi. C'est vraiment deux conceptions différentes. Donc voilà, pour les entrepreneurs. Alors l'évolution de l'entrepreneuriat au féminin, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes dans le monde entier ont cette chance d'avoir Internet. Et dans beaucoup de pays, ça leur donne l'occasion de pouvoir créer leur affaire, de pouvoir se développer en sortant de l'endroit où elles sont. Et on s'aperçoit que les femmes aiment énormément ça. C'est-à-dire qu'elles vont avoir cette capacité à très vite faire jouer ce fameux réseau, les connexions, les partenariats, et qu'elles vont ainsi sortir de l'endroit où elles sont et elles vont pouvoir se diffuser à travers l'Internet, elles vont pouvoir diffuser leur business. Alors on pense que le monde, ça c'est les prospectivistes, que le monde des 30 prochaines années sera très favorable à l'entrepreneuriat féminin pour ces raisons mêmes. C'est-à-dire que elles correspondent à ce que vous allez découvrir avec Geneviève, à ce qu'on peut nommer une espèce de dynamique féminine avec des compétences liées à la connexion, à la collaboration, au partage, à tout ce qui va permettre le développement d'un réseau. Puis il y a cette notion aussi de résilience, d'adaptabilité. Et toutes ces valeurs-là vont être des valeurs montantes dans le monde même de l'entreprise, parce que le monde de l'entreprise va beaucoup changer aussi. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, les femmes vont pouvoir se porter elles-mêmes et être peut-être plus elles-mêmes et peut-être avoir moins besoin de se sentir le besoin d'adopter un costume veston, en fait, pour être crédible. Et elles ont plus de chances, dans les temps qui viennent et qui ont déjà commencé, à pouvoir exister et se développer à travers ce qu'elles sont elles-mêmes. Alors, maintenant, comment on va faire ? Eh bien, Geneviève va prendre le relais. Donc, sur son cours, je vous l'ai montré. Et maintenant, tu vas nous parler des trois secrets de la réussite au féminin. Voilà, donc je vous laisse en bonne compagnie.
J'invite les personnes là qui sont debout. Il y a des places, vous pouvez vous asseoir. Hein. Allez-y, prenez, venez vous installer. Et on va commencer d'abord par une petite question, hein, parce que je suis coach, hein, donc évidemment on va utiliser ça. Et je vais donc prenez un petit temps pour réfléchir à cette question qui est: qu'est-ce que cela représente pour vous d'être une femme aujourd'hui ? Notez ce qui vous vient.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être une femme ? Voilà, notez quelques mots. Et puis dès que vous avez noté ce qui vous vient, les premiers mots qui vous viennent, je vous invite à partager avec votre voisine ou votre voisin. Et les messieurs, hein, bien sûr, pensez, imaginez-vous, qu'est-ce que vous pensez que les femmes, pour les femmes, qu'est-ce que ça représente d'être une femme pour elles aujourd'hui. Et prenez, voilà, vous avez une petite minute pour échanger avec, même si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir votre voisin ou votre voisine et d'échanger un petit peu. Voilà, vos premières impressions, ce qui vous vient là tout de suite sur cette question-là.
Quand tu avais commencé à me poser ta batterie de questions, là, vous n'allez pas avoir le droit à toutes les questions, mais...
Non.
bien peut-être que je fasse des photos.
Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager avec nous? Oui.
Je vais pas être l'égal de l'homme.
Oui, super, égal de l'homme. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses qui sont venues là spontanément? Ici, il y en a ici.
Libéré et autonome.
Oui.
Pour moi, c'est un enjeu et une chance.
Pour moi, désolé, mais ça se vérifie tout le temps, à tous les instants. C'est pour moi, c'est la faiblesse.
Très bien.
Donc désolé, mais...
Non, non, il n'y a pas à être désolé, vous sortez ce qu'il y a.
Moi, ce serait la nécessité de concilier vie de famille et travail. Voilà.
Pour moi, ce serait l'inégalité entre la femme et l'homme dans certains domaines qui persiste toujours dans beaucoup de domaines d'activité. Moi, j'ai les aides, par exemple, dans le bâtiment. Et on continue, voilà, une femme qui est peut-être ingénieure en CVC, elle est moins crédible par rapport à un homme. Donc, voilà, ça continue à persister, cette inégalité.
Oui, ce que vous dites toutes, moi aussi, c'est vraiment ce qui m'a étonnée, quoi.
Moi, je ne suis pas forcément... je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'ai aussi l'idée d'une femme solide, en fait, dans la société. C'est souvent aussi un repère pour les gens, même malgré les faiblesses qu'il peut avoir. C'est aussi quelqu'un sur qui on peut compter, justement, et qui va avoir un certain courage aussi dans ses relations aux autres. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas.
En fait, je rebondis sur ce qu'elle vient de dire. Pour moi, être une femme, c'est un combat et une force, en fait.
Je ne vous vois pas, mais... Ah.
Voilà. Je vous vois pas. Bonjour. Pour moi, être une femme, ouais, c'est combattre tous les jours, c'est être forte. C'est... On est un peu le pilier de la famille aussi. Et voilà.
Okay. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, surtout sur l'inégalité. Mais il faut dire que moi, je suis extrêmement fière d'être femme. Moi, je me trouve tellement différente des autres et avoir beaucoup de talent et intelligence et sourire et tout ça. Je suis vraiment fière, malgré l'inégalité que je ressens tous les jours, moi aussi.
Ok. Super. Eh bien, très belle réponse. Merci.
Je veux rajouter quelque chose.
Oui.
Être une femme, c'est aussi d'avoir la capacité de vraiment entendre votre intuition. Et ça aide beaucoup de discussion entre les gens.
Voilà, donc je rajoute quelque chose. C'est peut-être pas systématique, mais une femme, en tout cas, est souvent une mère. Donc, en fait, cette capacité à transmettre, à éduquer, qui fait que, voilà, c'est en même temps une grande force.
Merci. Merci pour toutes ces réponses. Et il y en a plein. Et voilà, hein, on... Et ça, ça m'amène à la suite, et notamment au premier secret, hein, qui va être de repérer et de se libérer de ses propres freins. Hein. Donc là, on a énoncé des choses qui sont des opinions, des ressentis, des sensations. Et dans ces sensations, ces opinions, il y en a qui donnent de l'énergie, hein, je suis fière, je me sens solide, je me sens forte, et puis d'autres qui vont plutôt donner un peu moins d'énergie, peut-être décourager, hein, quand on est face aux inégalités, au fait de se sentir inférieur ou des choses plus négatives. Donc la première des choses, c'est de repérer un petit peu les croyances que l'on a. La croyance, hein, c'est une pensée construite qui est personnelle, c'est une opinion sur voilà, on pense que quelque chose est vrai, hein, on a une opinion sur quelque chose, un jugement sur quelque chose, qui peut être, par exemple, je ne suis pas assez douée pour faire telle chose, ou je suis trop vieille ou trop jeune, ou pas assez compétente, pas assez diplômée, ou trop diplômée, ou c'est parce que je suis une femme que je n'ai pas droit à telle ou telle chose. Et ça va nous servir de repère dans nos actions, nos actes quotidiens. C'est-à-dire que la façon dont on voit le monde, hein, à travers ses croyances, hein, si on se dit je suis trop vieille, ou je suis trop jeune, ou je n'ai pas assez d'expérience, on va voir les situations, ce qui se présente à nous, à travers ce filtre. Donc il y a des choses qu'on ne va pas voir. Je vous donne un exemple de la vie personnelle. Si on pense qu'on ne trouve pas de place de parking ou qu'on a toujours la queue la plus longue, généralement c'est ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que, avec le filtre de cette croyance, on ne voit pas du tout les possibilités, les ouvertures qu'il y a autour de nous. Ça va filtrer et on ne verra que ce qui correspond à notre croyance. Donc, comment on va les repérer, hein? Comment on repère ces croyances? Ça va être tous les indicateurs, ça va être d'abord les généralités. Chaque fois qu'on va dire les hommes ceci, les femmes cela, les hommes sont
très beaux, très intelligents,
voilà. Ou plutôt agressifs, ou performants, où ils veulent toujours plus, les femmes, sont faibles, hein, on a entendu, sont peut-être soumises, ou ça c'est le type de... Dès qu'on a ce genre de généralité, également tout ce qui est résistance. Par exemple, j'ai des femmes qui viennent, dans les ateliers ou en consultation, et on regarde leurs projets, leurs objectifs, et elles me disent « Ah oui, mais... » Et dès que j'entends « mais », je sais que derrière, il y a une très belle croyance. Hein, ça va être « mais je n'ai pas assez d'argent » ou « mais il y a trop de concurrents » et en général, quand on regarde derrière le « mais », on peut le noter, hein, on prend son cahier, hop, on va noter cette belle phrase parce que c'est souvent une des croyances. Hein. Et puis, tout ce qui est adverbe, tout ce qui va être « trop », « pas assez », voilà, dès qu'il y a un mot derrière le trop ou pas assez, c'est généralement une croyance. Et donc on se fait des jugements, des interprétations de la vie à travers ces croyances, souvent qui sont, comme l'a dit Florence, qui viennent de l'adolescence, très souvent aussi de l'enfance, de la façon dont on a regardé, on a vu sa mère évoluer ou les femmes évoluer autour de soi, et comment elles interagissaient avec le monde, est-ce qu'elles se sentaient fortes ou au contraire, est-ce qu'elles étaient plus faibles, et on en a tiré des conclusions, on en a tiré des interprétations dont on ne se souvient pas forcément, mais qui vont induire les choix et les décisions que l'on va prendre. Donc, comment se libérer de ces croyances qui nous enquiquinent, qui nous limitent, qui nous freinent, donc après les avoir repérées, on va se poser un certain nombre de questions. Est-ce que cette croyance, ce jugement sonne juste, on a vu, est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce qu'au contraire, ça m'enfonce? Si ça me donne de l'énergie, je vais la garder parce qu'elle est positive pour moi. Elle me sert, elle me dynamise, elle va m'aider dans l'entreprise que je veux former. Ensuite, j'ai cette croyance. Quelles sont les raisons? Pour quelles raisons est-ce que je crois? Est-ce que j'ai cette croyance-là? C'est intéressant de regarder les raisons, plus on approfondit. En général, c'est bien de le noter, de l'écrire, parce que en le disant, c'est bien sûr, on a une certaine opinion, mais le fait de l'écrire, ça nous permet de regarder les choses et de se dire, ouh, oui, peut-être que là, je prends conscience de certaines choses.
D'où vient cette croyance? Et notamment, qui est-ce qui l'a dit autour de moi? Qui est-ce qui l'a disait peut-être dans mon enfance, hein? C'est la voix, elle vient d'où? D'où elle me vient, cette croyance? Est-ce que c'est voilà, la culture autour de moi? Est-ce que ce sont ma famille, mes amis? Est-ce que dans les médias? Où est-ce que je suis entourée de cette croyance-là? Ou est-ce que ça remonte au passé? Et puis, les deux questions suivantes qui vont retourner un peu la situation, c'est: existe-t-il des exemples qui contredisent cette croyance? Et en général, on en trouve toujours. Hein. On va dire, oui, mais les femmes dans tel secteur ne réussissent jamais, et notamment, effectivement, par exemple, dans des domaines... moi, j'ai pas mal de jeunes filles qui sont dans l'électronique ou l'aéronautique, voilà, souvent, effectivement, elles sont souvent seules, avec beaucoup d'hommes, mais voilà, regardez, s'il y en a au moins une qui réussit, c'est ouvert pour... Et même s'il n'y en avait pas, c'est toujours ouvert et possible pour les autres. Hein. C'est, même s'il n'y a pas d'exemple, je peux en trouver et je peux l'ouvrir. Je peux être la première à être l'exemple. Hein. Voilà. Et surtout de se demander, si je n'avais pas cette croyance, qu'est-ce qui se passerait? Qui je serais sans cette croyance-là? Hein, pour pouvoir, après, la lâcher. Hein. Donc, il y a des petits exercices à faire pour pouvoir lâcher ses croyances. Donc ça, c'est notre... l'idée, c'est de devenir, en fait, notre meilleur ami. Donc, comme je le dis très souvent, la façon dont on se parle, dont on si vous écoutez un petit peu vos pensées, et lorsque vous êtes en doute ou lorsque voilà, vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez cette petite voix, hein, qui vous dit « oh, mais pour qui tu te prends ? Tu ne vas pas y arriver, qu'est-ce que tu fais ?» etc. Et en fait, si on prend conscience, on ne parlerait pas comme ça à sa meilleure amie. C'est-à-dire, notre meilleure amie aurait, même si elle est en train de faire quelque chose, qu'elle a fait, ça ne s'est pas passé exactement comme elle voudrait, est-ce qu'on viendrait lui dire tout ce qu'on se dit à nous-mêmes? Voilà, donc ce premier secret, c'est ça, se débarrasser de ses croyances, devenir sa meilleure amie, sa meilleure alliée, c'est-à-dire son cheerleader, comme on le ferait pour son ami. Alors, le deuxième secret, c'est comprendre et utiliser les dynamiques de vie. Hein, on a vu, on oppose donc souvent, hein, le féminin et le masculin. Et pour mieux comprendre le féminin et le masculin, on va aller dans la dynamique de vie, hein, tout ce qui a créé la vie, c'est deux forces, deux principes, deux rythmes, deux énergies différentes, complémentaires, inséparables. Hein. Donc, on a un qui est plutôt dynamique, qui va être séparateur, transformateur, multiplicateur, hein, qu'on va associer au principe yang, qui est plus masculin, et puis un qui est plus passif, stable, structurant, qui va condenser, qui va unifier et qui est associé au principe yin, qui est plus féminin. Et on va associer aussi le yang, ou cet aspect plus masculin. Donc pourquoi est-ce qu'on dit masculin? C'est-à-dire qu'on le retrouve effectivement un peu plus chez les messieurs, et le principe yin, on va retrouver un peu plus chez les dames. Mais ces deux énergies, ces deux principes, ces deux forces sont bien évidemment en tout le monde. Hein. On a les deux, et on va utiliser ces deux énergies, mais pas dans la même façon. Elles ne vont pas être utiles de la même manière et dans les mêmes situations. Hein. Donc, l'énergie yang, c'est le mouvement linéaire. C'est aller vers l'extérieur, à l'avant. C'est foncer, c'est tout ce qui a été pour les conquêtes. Hein. C'est l'énergie yang qui a servi à aller aux Amériques, en Inde, à faire à développer. C'est, on l'a vu, cette énergie yang qui sert à faire des acquisitions, à développer, à grandir, hein, toujours aller plus loin son entreprise. Et puis, donc, qui est basé sur la logique, hein, sur les modèles éprouvés,
sur le faire, sur le travail. Il faut travailler dur, il faut, voilà, on est concentré sur le travail pour aller toujours plus loin, toujours plus grand. Et puis, l'énergie yin, qui elle, c'est un mouvement circulaire. C'est vers l'intérieur, j'utilise pas le même ton de voix, hein, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus enveloppé, c'est une énergie de repos, de réflexion, de temps de pause, hein, c'est la dilatation du temps, c'est les ressources, c'est utiliser les ressources intérieures. Le principe Yang va aller chercher les ressources à l'extérieur, hein, donc c'est pour ça qu'on va toujours plus loin, plus fort, parce qu'on va chercher vers l'extérieur, alors que cette énergie Yin, c'est les ressources sont là déjà, on les laisse émerger, hein, on les utilise. Ça va être l'intuition, hein, on a parlé à un moment donné d'intuition. Ben voilà, et l'intuition, elle est partagée par les hommes et par les femmes, mais ça vient de cette énergie yin. Hein. Donc voilà, donc quand les hommes acceptent d'utiliser cette énergie yin, ils vont effectivement utiliser cette intuition. Hein. Et donc
la créativité aussi.
Et oui, c'est ça, et la créativité, c'est ça. L'expression créative, elle est dans cette énergie yin. C'est pour ça que, par exemple, les artistes masculins donnent une impression de plus d'avoir de la féminité. Hein, voilà. Alors, encore un autre petit exercice. Juste de se poser la question, à quel moment et dans quel contexte professionnel utilisez-vous plus l'une ou l'autre de ces énergies? Prenez ce petit temps pour vous et puis, encore une fois, partagez avec votre voisin ou votre voisine.
Est-ce que ça peut être contexte tâche aussi? Pour quel genre de tâche?
Oui, pour quel genre de tâche? Peut-être à quel moment de la journée, de l'année, pour quelle situation, hein,
pour quel objectif?
Pour quel objectif, voilà, tout à fait. Ou l'impression, voilà, quand c'est que vous avez l'impression, maintenant que vous avez écouté ces deux énergies, où est-ce que vous vous ressentez dans ces deux énergies, hein, laquelle vous parle le plus et avec laquelle vous...
Bonjour madame. Oui, bonjour. Donc moi j'exerce en tant qu'avocate et par exemple dans mon métier je distingue vraiment deux tâches différentes dans lesquelles je vais être dans des énergies totalement différentes. Si jamais je suis par exemple en audience, en plaidoirie face à mon contradicteur et que je dois aller chercher la victoire, eh bien je vais être plutôt dans une énergie yang. Alors que par exemple dans un moment comme l'entretien client où je dois là accueillir et comprendre le problème qui m'est posé et puis comprendre tout le contexte et poser les questions, j'ai le sentiment d'être plus dans ce que vous décrivez comme une énergie yin. Mmh,
tout à fait. Merci.
Oui, en fait, j'écris des contes pour enfants et que je joue. Et effectivement, la partie créative, ça me parle beaucoup quand vous parlez de dilatation du temps où on part dans une autre atmosphère, enfin un autre monde, en fait. C'est vraiment l'énergie yin. Et puis, ben, quand il faut aller en scène, c'est vraiment toute la dynamique de donner où c'est plus, pas une conquête, mais quelque chose où, voilà, qui demande une énergie plus forte, quoi. Voilà.
Qui veut nous raconter?
Je rejoins un peu Madame l'avocate. Effectivement, moi j'étais animatrice réseau, donc j'accompagnais des clients dans leur projet de magasins d'ouverture, mais du concret jusqu'à l'implantation physique des magasins. Et je me retrouvais vraiment dans le côté yang quand je manageais des équipes et quand physiquement j'implantais, où là on considère ça plus comme un travail d'homme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'appelait G.I. Joe. On m'appelait pas Barbie à ce moment-là. Et d'autre part, le côté yin se ressentait plus sur le conseil, quand j'accompagnais les gens dans leurs projets, l'écoute, l'approche client aussi. Et là, c'est plus le côté yin qui ressortait, effectivement.
Quelqu'un veut partager avec nous son énergie, la répartition de son énergie?
Donc là,
j'en ai deux.
Très rapidement, en fait, moi j'étais plutôt dans les ressources humaines et j'ai remarqué que finalement j'avais du mal à me départir d'une des deux énergies. C'est-à-dire que quand il s'agissait de structurer l'entretien, l'intervention, tout ça, il y avait un côté très yang et en même temps, pour avoir un peu l'adhésion des autres personnes, il y avait toujours du yin dedans. Donc c'était pas vraiment séparé. Ouais, c'était souvent une alternance des deux en fait.
Moi, je souhaitais juste partager en fait une remarque, c'est que très très souvent, quand on est dans un contexte très masculin où il faut s'imposer entre guillemets en tant qu'une femme pour prouver qu'on voilà qu'on vaut quand même quelque chose, il faut vraiment avoir beaucoup de force pour mélanger entre les deux énergies pour ne pas justement pour paraître suffisamment imposante en fait pour pouvoir prendre la parole, prendre des décisions. Mais aussi de ne pas être prise pour une grosse tête, voilà, etc., pour paraître quand même féminine, entre guillemets. Voilà. Ouais, mais c'est vraiment intéressant parce que ça amène justement le très bien le troisième secret. Et, oui.
Ok. Moi, je fais la psychothérapie émotionnelle. Et plutôt, tu vas dire, je suis dans le yin, que j'accueille toutes les émotions des autres. Mais aussi, c'est essentiel que je suis dans le yang pour créer un cadre en sécurisant.
Tout à fait.
Surtout quand j'ai animé un groupe. Ça demande d'être dans le yang pour... Oui.
Tout à fait. Voilà, donc on voit hein, comment on va de connaître et de comprendre un petit peu ces énergies et comment on peut les faire vivre et comment les utiliser parce que très souvent justement et on arrive à mon troisième secret qui est d'être totalement soi. Et moi, je rends un grand hommage à toutes les femmes qui nous ont précédées depuis ces 50, 100 dernières années et qui ont fait beaucoup, beaucoup de choses pour je ne sais pas si on va les appeler libération de la femme ou sans que ça soit qu'il y ait des connotations, mais qui ont fait beaucoup pour les femmes et parfois à perdre justement cet aspect yin mais elles avaient besoin de passer par utiliser la force yang pour percer, pour arriver, pour pouvoir... Et maintenant, nous avons, nous, la chance, c'est l'extraordinaire chance que nous avons, nous, à notre époque, que nous n'avons plus besoin de trop utiliser cette énergie yang. C'est-à-dire qu'elle sera toujours utile, hein, puisqu'on a besoin des deux, sinon il ne se passe rien. Hein, on a besoin à la fois et de cette énergie yang et de cette énergie yin. Mais très souvent, on utilisait beaucoup plus de yang au détriment du yin. Et en plus, pour les femmes, ça enlève de la confiance, ça nous empêche d'être vraiment nous-mêmes, puisque, comme disait Florence, on met le costume complet noir, voilà, et c'est pas nous, c'est pas... Voilà. On a chacune des degrés différents certaines vont avoir un peu plus de yang que d'autres, et d'autres plus de yin, mais dans l'ensemble, le féminin va se retrouver, se ressourcer dans du yin. Hein. Les hommes ont besoin de se ressourcer dans l'énergie yang, c'est là où leur force elle est dans du yang, et la force féminine elle est dans le yin.
mais toujours avec l'idée qu'on utilise les deux. Et là, dans l'époque que nous avons, et notamment pour les entrepreneurs, c'est vraiment intéressant de réclamer cette énergie yin, c'est-à-dire de vouloir percer, de vouloir de conquérir, mais d'accueillir, c'est-à-dire de laisser faire, de laisser venir, c'est-à-dire c'est croire qu'on a le droit et c'est avoir confiance en soi, dans tout ce que nous on a à apporter, hein, et chacune d'entre vous dans tous vos projets, dans ce que vous faites, vous apportez quelque chose au monde, hein, et c'est de croire dans vos capacités, dans vos valeurs, et ça c'est être dans du yin, hein, c'est accueillir, c'est permettre, laisser émerger et puis vouloir contrôler, récupérer, voilà, hein, c'est permettre aux choses, et nous avons cette capacité quand nous sommes dans notre féminin, dans notre yin, de permettre aux choses de donner le temps aux choses d'arriver, hein, de permettre aux choses d'émerger, et il y a de très belles choses qui justement, quand on les laisse émerger, voient le jour, hein. Donc c'est voilà, c'est peut-être le secret que je préfère, c'est voilà, être authentique, être soi, c'est pas toujours évident, parce que voilà, hein, c'est aussi un cheminement, c'est s'accepter tel que l'on est, c'est s'aimer, c'est donc hein, on a vu commencer par être sa meilleure amie, sa meilleure alliée, et croire en soi et croire dans les autres femmes, parce que dans cette énergie yin, il y a aussi la collaboration, le réseau. Hein. Voilà, on n'est pas en compétition, on est en collaboration, on travaille beaucoup mieux les unes avec les autres. C'est le cœur du principe féminin, hein, du principe yin, et de voilà de pouvoir donner aux autres. Et accepter et accueillir, hein, recevoir aussi.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait du monde à venir pour les femmes, c'est vrai que le monde professionnel, de la vie professionnelle, de l'entreprise, on sent bien tous qu'on est quand même à un basculement. Les choses sont en train de changer, les structures pyramidales sont quand même mises à l'épreuve, l'intelligence collaborative est en train d'arriver un peu partout, et court-circuite, je dirais, certaines structures. Donc, ce monde qui est en train d'arriver, c'est un monde qui va correspondre beaucoup plus à ce type de fonctionnement, et qui feront qu'il n'y aura pas besoin de se dire, bah, par exemple, forcément, pour réussir, il faut rentrer en bourse, il faut faire un chiffre d'affaires qui seront les seuls critères de réussite. Et je pense que c'est en ça aussi que voilà, il va y avoir une accentuation. J'espère que le 3% d'entrepreneurs femmes pourra passer à 5%, puis à 10%, puis un jour arriver à une espèce d'égalité. Hein, mais je pense qu'il faut prendre ça étape par étape, hein, parce que voilà, on part de 3% quand même. Hein, donc. Je vais revenir après. Donc sur le training, ce que vous allez pouvoir trouver qui risque de bien vous passionner, moi ça m'a passionné, c'est les typologies aussi, de voir un petit peu justement, il y a quatre, d'après ce que j'ai compris, il y a quatre types, et c'est très bien expliqué, parce que on arrive à se retrouver vraiment bien dans ces typologies, et c'est très aidant quand même au départ. Hein. Et puis vous allez avoir une réflexion sur la féminité, mais au fil du temps, en partant de la préhistoire, et donc vous allez y découvrir plein de choses passionnantes et surtout aidantes quand même sur les aspects travail, business. Hein, donc,
ce que je me suis attachée à faire, parce que, donc, ce qui était important pour moi lorsque j'ai fait ce training, c'est que je voulais qu'il y ait cette même chaleur, cette même connivence que j'ai lors de mes ateliers, de mes séminaires en présentiel. Donc c'est un pas à pas où vous êtes accompagnés, on fait ce voyage, un voyage ensemble au fur et à mesure en travaillant chacun des secrets que je vous ai dévoilés là, mais d'autres encore.
Voilà, alors maintenant nous sommes à votre disposition pour répondre à des questions. Si vous avez des questions sur les femmes entrepreneurs, si vous avez des questions sur le training de Geneviève, si vous avez des questions sur des précisions sur ces énergies, si vous avez des questions. Voilà. Je ne vois pas beaucoup de questions. Ah, voilà, une question.
Bonjour. Alors, je suis arrivée 10 minutes en retard, alors j'ai peut-être raté des choses. Déjà, je me demandais, pour la culture de tout le monde, la notion de yin et de yang, ça existe depuis quand?
Ah, c'est, c'est immémoriel.
Des millénaires
Oui, voilà. C'est, ça vient de la philosophie taoïste.
Taoïste, oui. D'accord. Ouais. Ce que je me demandais, en comparant l'énergie yang et les valeurs du yang et les valeurs du yin. Dans les valeurs du yang, il y a plus, ça ramène plus à la domination. Et moi, personnellement, je me dis que c'est dommage d'associer ça au masculin.
Alors, c'est pour ça que je fais bien le parallèle, c'est que ce sont deux énergies différentes et c'est pas forcément le masculin, c'est bien ce que j'ai dit. Hein.
Oui,
c'est-à-dire que c'est, il faut le mettre hors homme-femme. Hein, c'est pas une comment dirais-je une séparation homme-femme, c'est non, c'est deux énergies et ces énergies-là, on va les utiliser et c'est vrai que on va la retrouver peut-être il y a peut-être une plus majorité de yang chez les hommes et de yin chez les femmes. Mais en sachant aussi, et ça on en traite dans le training, c'est que il va y avoir l'utilisation positive du yang et du yin et l'utilisation négative.
Oui.
Et là, ce que vous avez, l'aspect domination, c'est l'aspect négatif du yang. Mais ce n'est pas forcément ça là qu'on veut, bien sûr.
Oui. D'accord, merci. Oui.
Je voulais vous demander par rapport à ce que vous faites, ça se passe comment? Ce sont des séminaires, c'est comment ça se passe?
Alors donc là le training, donc ce sont c'est en ligne. Hein,
ce sera en ligne à partir du 7 novembre.
Voilà, à partir de 7 novembre. Et donc voilà,
c'est sur coachline.shop.
Voilà, coachline.shop. Et donc ce sont des vidéos dans lesquelles je vous explique un certain nombre de choses. Et puis je vous pose des questions. Voilà,
comme un training.
Si on était ensemble. Donc voilà, vous avez le temps, on prend le. Voilà, on prend un temps de retour à soi. Voilà, j'amène divers outils que vous pouvez utiliser au fur et à mesure. Hein, voilà. Donc.
Oui, moi je voulais savoir si vous aviez des petites indications, des petites astuces, on va dire, pour inverser quand même ce qu'on voit très souvent, la plupart du temps, c'est les rapports de force. Parce que là, tout ce que vous dites, bon. On le sait, enfin entre guillemets, bon moi ça ne m'apprend rien de particulier, mais c'est comment manager le rapport de force homme-femme dans le business et même en dehors du business, puisque je dirais tout est bon à prendre. Et donc par rapport à ça, je vais dire c'est violent, il y a une violence, pas forcément physique, mais elle est verbale ou elle est comportementale, elle est stratégique. Hein. Comment est-ce que vous avez quelques petites astuces pour adoucir au moins ces choses-là dans le rapport business homme-femme? Parce que c'est quand même un gros problème. Mais c'est quand même un gros problème. Oui. Parce que c'est pas idyllique comme vous avez l'air de le présenter, entre guillemets.
Non, on n'a pas dit, les chiffres montrent que ça n'est pas idyllique. Parce qu'on est parti de...
mais
Tout à l'heure, quand je parlais de la féminité, je disais, pour moi, le premier mot qui vient, c'est faiblesse. C'est pas moi que je me sens faible. C'est, il y a un environnement qui est quand même, je dirais, structuré par les hommes et quand même fait pour les hommes. Et nous, en tant que femmes, hein, on a nos compétences, on a notre intériorité, notre réflexion, notre créativité, tout ça sont des points très forts. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les valoriser et à les mettre au devant de la scène. Pourquoi ? Parce qu'on a des séries, c'est comme une course d'obstacles. On n'a que des obstacles. Mmh. Et comment essayer de, voilà, est-ce que vous avez des petites astuces ? Je sais pas, je vois pas comment le dire.
Alors justement, c'est ça qui est intéressant, et c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que ce que je m'applique à faire, c'est à renforcer les femmes. C'est-à-dire, je travaille une à une. C'est des femmes dans des situations difficiles comme ça, qui se trouvent en état de faiblesse. Hein, c'est les renforcer de l'intérieur. Et quand on est renforcé de l'intérieur, curieusement, les choses à l'extérieur bougent, elles changent. Ça ne se fait pas en 5 minutes, mais j'ai des tonnes d'exemples pour vous dire que ça, peu à peu, ça fonctionne. Et c'est ça qui est vraiment... des femmes fortes de l'intérieur qui croient en elles ne vont plus être soumises à ce genre de situation. Les situations s'en vont.
Bonjour, je vais un peu rejoindre le sentiment qui a été exprimé, c'est que moi par mon expérience, j'ai été dans des situations où on est souvent brimé, bridé. En fait, on est freiné en permanence. Il y a un mot qui revient toujours, c'est tu déranges. Tu déranges pourquoi ? Et en effet, on se retrouve dans un environnement, on a une domination plutôt masculine, et voire même des femmes qui sont contre vous.
Oui, tout à fait.
Vous dérangez un schéma. Qu'elles-mêmes ont construit par rapport à ce que doit être une femme, et voilà, tais-toi et reste au niveau qui doit être celui qu'on a accepté nous. Et donc, et je rejoins un peu ce sentiment, c'est qu'on n'est pas armé quand on se retrouve à être attaqué. Je vais vous donner un exemple, on a pu me faire un reproche en entretien individuel. J'ai demandé à avoir une reconnaissance de mon travail, de mon statut, une évolution. Et en retour, face à ça, j'avais quelqu'un qui me disait « Mais marie-toi, fais des gosses, tu nous emmerderas moins. » Donc, voilà.
Ça,
Et on se retrouve en permanence cassé, rabaissé. Et il y a toujours aussi, ce qui revient souvent, c'est ce vocabulaire « Quand vous faites bien, vous êtes compétente, ben, on va vous donner un vocabulaire plutôt masculin. On va vous le ramener, en fait. Waouh, super, G.I. Joe. Pourquoi G.I. Joe ? Pourquoi il faut que ça soit ramené en fait à une qualité masculine comme pourquoi est-ce que nos managers, quand elles sont des femmes, il faut qu'elles soient masculinisées. En fait, je reviens à cette question, je pense que c'est ça, c'est quelles armes, comment on peut déjouer en fait ce travail de sape et de décrédibilisation, d'infantilisation des femmes quand elles se retrouvent dans des souhaits de progression et de reconnaissance de leurs compétences.
On les évacue ou alors on leur donne des postes de moins importance. Ça aussi c'est calculé. Même si elles sont hiérarchiques, elles prennent un poste de moins importance. On peut contrôler. C'est très vicieux, c'est bien plus vicieux qu'on ne le pense. Non, c'est vrai, j'en ai pas
fait ce que je donne, c'est des ressources personnelles intérieures. Non, mais...
Ce que peuvent faire les femmes, au fur et à mesure, elles ont deux axes. Elles ont un axe de l'intérieur, de se renforcer, de travailler sur leurs croyances, parce que ces croyances, effectivement, se mettent en place automatiquement, et ce qui font qu'elles vont être beaucoup plus vulnérables quand elles vont être attaquées, parce que, évidemment, elles vont se remettre en question. Et c'est ça qui leur pourrit la vie, c'est parce que quelque part au fond d'elles, elles vont se dire, mais c'est peut-être vrai, quoi, il y a peut-être un sujet là. Bon, donc, ce renforcement intérieur est très important, et c'est aussi pour ça que je pointais aussi ce monde qui est en train d'arriver,
et les domaines où les femmes, parce que ce que vous êtes en train d'écrire, qui d'ailleurs est aussi valable pour pas mal d'hommes, hein, nous on a récupéré, je peux vous garantir, des hommes managers ou autres qui sont liquidés de leur entreprise sans un merci en 30 minutes par SMS ou des choses comme ça, et qui sont détruits. Il y a une violence déjà dans l'entreprise en général. Hein, on est quand même assez d'accord là-dessus et je crois qu'elle est partagée. Mais ce monde, moi j'ai travaillé beaucoup en intelligence collaborative de façon justement à voir évoluer de plus en plus ces façons de travailler différentes. Mais ça, bon, il y a encore du boulot. Hein. Mais cela dit, on sent qu'on est quand même sur quelque chose qui est en train de vaciller. Ça, c'est très clair. Moi, de toutes mes interventions que j'ai pu faire dans les grandes organisations, on sent que c'est en train de vaciller. Et à mon avis, ça va prendre très longtemps. Hein. Les nouveaux systèmes qui se mettent en place progressivement, bah oui, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Non, mais on est d'accord. Oui, mais bien sûr, on est d'accord. Mais le training, ce qui va vous permettre de faire, c'est vraiment de travailler, comme toujours, hein, je veux dire, c'est d'arriver à identifier comment vous-même, à un moment donné, vous ne vous aidez pas, et comment nous-mêmes, parce que c'est pas vous, c'est nous toutes, on ne cède pas, et comment on peut justement travailler sur ce système de croyance, comment on peut jouer avec ces deux types d'énergie, et peut-être mieux les connaître pour les approfondir et savoir s'en servir. Je dirais un peu ce qui me viendrait comme image, c'est un peu, vous savez, comme dans le judo, c'est-à-dire de savoir utiliser la force dans l'autre sens, et donc d'en faire une alliée. Donc c'est ce travail-là qui est proposé, parce que le training ne va pas révolutionner le monde, Geneviève toute seule non plus, voilà, donc ça c'est... je suis d'accord. Hein, ouais. Bien sûr qu'on l'a. Bien sûr, ben on y a assisté et puis c'est un sujet, je pense, dont toutes les femmes, même celles qui disent que non, souffrent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, même dans un autre sens, ont fait carrière et qui ont eu des grands renoncements personnels. Donc pourquoi la femme doit toujours choisir, quoi? Donc ça c'est pas très juste, mais enfin on est obligé de prendre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, et la philosophie c'est d'avancer quand même pas à pas vers le mieux et vers un résultat. Donc je pense qu'il faut aussi être réaliste sur ce qui est faisable et réalisable, et je pense que ça j'en ai une intime conviction, enfin tout ce que j'ai fait en tant que parcours, moi aussi j'ai 3 enfants, j'ai été entrepreneuse à l'âge de 25 ans, après bon j'ai fait beaucoup de choses, bon j'ai vécu dans des milieux masculins très durs, et à un moment donné, bah oui, tout ça, au fil du temps, on apprend en se développant soi-même, à ne plus du tout ressentir les attaques. Ou en tous les cas à les traiter d'une façon complètement différente qui font qu'on inverse la machine. Parce que les hommes ont un sujet aussi. Hein. Mm. Tout ce qu'on dit là sur cette conférence, j'ai dit à Geneviève, on peut la faire pour les hommes.
Hein. Mm. Ce que je voulais répondre aussi, c'est par rapport à décrypter ce qui est envoyé, parce qu'on est tous des miroirs les uns pour les autres dans les entreprises. Et effectivement, quand vous avez dit « tu déranges », en fait, si vous avez plus de compétences qu'une supérieure, ou si vous renvoyez à un homme, quelque chose que lui n'a pas, au lieu de simplement avoir l'humilité de se dire « bon, ben, finalement, cette jeune femme est pleine de talent », ben, ça va sortir en agressivité parce qu'on casse le miroir plutôt que de se remettre en question. Et donc peut-être qu'une clé qui serait bonne pour vous, c'est de savoir vraiment qui vous êtes, de savoir que lorsqu'un ennemi veut déstabiliser quelqu'un, il va lui faire croire quelque chose qui n'est pas dans la réalité, mais à partir de ce moment-là, il pourra avoir pouvoir sur la personne. Alors que si la personne vit ce que vous vivez, c'est pas facile, mais savoir que finalement c'est parce qu'il y a un manque par rapport à la personne qui est au-dessus de vous, ou il y a une douleur, ou peut-être que vous faites penser à son ex-femme, à un homme, et à chaque fois qu'il vous voit, ben au lieu de se dire bon ben finalement je l'aime toujours, il va la casser pour dire je veux plus la voir. Il y a ce genre de choses, ouais, comme ça qui font que finalement tout ça c'est quelque chose qui va vous vous ouvrir plutôt que de vous fermer. Il faut que vous ayez une ferme assurance de qui vous êtes et puis vous nourrir de d'amitié ou de gens qui vous rappellent vraiment qui vous êtes.
Mmh. Ouais. On va prendre encore une question. Je suis désolée parce qu'on est en train de nous faire les gros yeux là.
Oui. Bruno Calvry du cabinet Actis Partners. Je reviens sur Coach Line. Pour bien comprendre, je vois trois éléments à l'écran. E-training, e-learning, e-coaching.
Tout à fait.
C'est un tout petit. Concrètement, comment
alors, e-learning...
Est-ce que, par exemple, dans l'e-coaching, je vois... Madame, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom.
Geneviève.
Est-ce que je communique avec vous par Skype? Je ne sais pas comment ça fonctionne.
Oui, tout à fait.
Et donc, c'est du présentiel
comme par, si par visioconférence.
Voilà, par visioconférence.
Tout à fait. Donc, vous allez vous inscrire à un parcours sur un sujet qui vous intéresse. Bon, sur lequel vous avez envie de travailler. Donc vous allez avoir dans la partie e-learning des modules qui vont faire de la pédagogie sur certains sujets. Sur la partie e-training, vous allez faire des exercices, des quiz, des questionnaires, des tests. Et sur la partie e-coaching, vous allez avoir un coach qui vous accompagne en présentiel.
Je peux choisir le coach ou faire...
Bah, vous aurez déjà le coach qui a fait le training, déjà, et il y a beaucoup de demandes de ce coach-là à un réseau qui est sur Coachline, et donc qui est formé aussi sur ce sujet, et qui fait aussi les accompagnements du training.
Merci.
Merci beaucoup. Alors, vous trouverez ça à partir du 7 novembre. Ça va dépendre, en fait, des cours, parce qu'il y a des cours qui sont plus courts que d'autres. Il y a des trainings qui auront, par exemple, 2-3 vidéos avec 2-3 exercices. Et puis, vous avez des trainings qui ont 35 vidéos avec vraiment tout un parcours sur plusieurs semaines. Donc, à chaque fois. Mais en tous les cas, on a travaillé à rendre les prix accessibles aux individuels, en tous les cas. Et on travaille aussi pour l'entreprise.
Eh bien, voilà. Merci.